Les voltigeurs du bon Dieu, les bienheureux de Dieu, c'est ainsi que vous appelez les consacrés, Noël Haussmann. Pourquoi ? Et qui sont les personnes consacrées dans l'Église ?
Les voltigeurs sont ceux qui sont en avant de l'armée et qui sont aussi très libres de leur mouvement, disponibles, audacieux, entreprenants, mettant leur vie en danger si c'est nécessaire, etc. Donc c'est ainsi que j'ai vu les religieux et les consacrés en général. Alors les consacrés dont je parle sont plus spécifiquement ceux qui relèvent d'une des formes reconnues par l'Église catholique comme vie consacrée, c'est le label officiel, mais bien sûr que tous les chrétiens sont consacrés par leur baptême, par leur confirmation et certains même par le sacrement de l'ordre. Ce sont les consécrations fondamentales, puis même aussi par le mariage, dit le Concile Vatican II. Ça fait beaucoup de consacrés dans l'Église, mais les consacrés dont moi je parle sont des consacrés un peu plus spécifiques, ceux qui ont voué leur vie au royaume de Dieu, ceux qui ont voué le célibat pour le Christ, ceux qui consacrent toute leur force à l'établissement du royaume, etc.
Quelle nouvelle forme de vie consacrée est en train de poindre dans l'Église ?
Il y a, je pense, 6 petites familles qui ont été reconnues comme nouvelles formes de vie consacrée. Elles ont comme caractéristique de rassembler des hommes et des femmes, bien que dans des logements séparés, etc. Et puis aussi de faire vivre ensemble, pour un même but apostolique, des personnes qui sont des religieux, si vous voulez, des consacrés et des prêtres.
Comment expliquez-vous que ces nouvelles formes de vie consacrée connaissent aujourd'hui un grand essor?
Il en est ainsi dans toutes les périodes de l'histoire de l'Église qui ont été des temps de crise. À toutes ces périodes, on a vu fleurir des mouvements souvent très enthousiastes, très spirituels, très charismatiques, comme on le voit depuis 20 ou 30 ans dans l'Église catholique. Et puis, il faut 20 ou 30 ans pour que les choses se réordonnent, se simplifient, pour que l'ivraie et le bon grain se séparent et puis s'institutionnalisent d'un côté, se perdent souvent de l'autre ou renaissent autrement.
Vous dites dans votre livre que les consacrés à Dieu se consacrent à Dieu, mais c'est aussi Dieu d'abord qui se consacre aux hommes.
Oui, c'est-à-dire qu'on est d'abord consacré par Dieu. Être dans la vie consacrée, ça veut dire reconnaître que Dieu vous a, d'une certaine manière, élu. C'est le choix de Dieu. Vous avez la surprise de comprendre que Dieu a sur vous un projet déterminé, une volonté déterminée, qui est que vous soyez là et pas ailleurs, et ainsi et pas autrement, dans tel lieu, dans tel espace, pour faire telle tâche ecclésiale. Et donc, c'est tout un chemin de trouver ce lieu où Dieu nous attend, et puis d'y rester quand on y est, parce que c'est pas toujours évident non plus d'y rester.
Est-ce que vous avez perçu les attentes des laïcs par rapport aux religieux?
Je suis des rares théologiens, théologiennes qui sont un peu réservés sur la propension de beaucoup de laïcs très dévots, disons, très engagés chrétiennement, à se tourner vers la vie consacrée comme vers leur orient. Et moi, j'aimerais tellement mieux qu'ils approfondissent leur mariage, leur vie professionnelle, la vie sociopolitique, la vie conjugale. Il y a une spiritualité dans la vie conjugale, toute simple. Et donc, je n'aimerais pas que tous les laïcs devinssent des religieux.
Quand vous dites qu'il y a dans la vie conjugale, dans la vie baptismale, des richesses à approfondir, est-ce que vous entendez tout ce dont vous parlez dans votre livre par rapport à la transfiguration, à l'importance de la vie transfigurée?
Oui, l'existence chrétienne est par définition une existence transfigurée. Le chrétien, c'est celui qui a rencontré le Christ, d'une certaine manière. Je n'ai pas dit qu'il avait eu des visions, des apparitions, des lévitations et des stigmates. J'ai dit qu'il a, d'une certaine façon, même peut-être à son insu, rencontré le Christ, de sorte que c'est la vie du Christ, l'évangile, les valeurs des béatitudes, etc., qui gouverneront son action et son être pour tout le reste de sa vie. Et donc, il saura que la mort n'est pas le dernier mot, il saura que c'est en montant sur la montagne avec Jésus qu'on voit la beauté de Dieu, il saura qu'il faut suivre Jésus à travers tous ses mystères, quel que soit le mystère principal auquel Jésus le destine.
Vous parlez de la beauté de Dieu et vous reprenez souvent ce qu'a dit Jean-Paul II dans la Vita Consacrata à propos de la beauté de Dieu et de la transfiguration.
Alors, Jean-Paul II a fait un cadeau exceptionnel à la vie consacrée en lui proposant comme icône principale, comme lieu d'intelligibilité, si vous voulez, la transfiguration. On n'avait jamais fait ça dans l'histoire de l'Église. Aucun père de l'Église, aucun grand théologien, aucun pape jamais n'a proposé la transfiguration comme étant le visage très particulier de Dieu que la vie consacrée est appelée à manifester. C'est en regardant Jésus transfiguré sur la montagne, donc Jésus revêtu de la beauté de Dieu, que alors on peut le suivre dans la plaine, guérir avec lui, sauver avec lui, écouter sa parole, redire sa parole, traverser alors le jardin de l'agonie et attendre, comme au samedi saint, sa résurrection, savoir que tout est gagné déjà, même quand tout semble perdu.
Quelle est l'expérience spirituelle qui se cache derrière la transfiguration ?
C'est l'expérience de quelqu'un qui a été comblé par Dieu, qui a vu la beauté de Dieu, la gloire de Dieu, qui sait que ce qui compte n'est pas de faire d'abord une expérience de la souffrance si pénible et si profonde que vous êtes obligé d'entrer au couvent pour oublier tout le reste. Non, c'est une expérience de la joie qui traversera toutes les épreuves. Dieu est là, il est à mes côtés, il m'a prise dans son mystère de gloire, et même si moi je ne le vois pas, puisque la transfiguration ce n'est qu'une fois, on le voit une seule fois et c'est pourtant toujours ainsi, même si moi je ne le vois pas, le chemin de ma vie est celui d'une existence transfigurée.
Vous parlez aussi souvent de l'épisode de Béthanie et du parfum, et vous comparez la vie consacrée à ce parfum.
Le pape Jean-Paul II cite une parole qu'on attribue à Thérèse d'Avila, mais qui est en réalité une parole de Christ à Thérèse d'Avila. Très inquiète de voir la décadence des religieux de son époque, un peu comme semble-t-il parfois aujourd'hui, Sainte Thérèse se plaignait de l'état de la vie religieuse, et le Christ, pour la consoler, lui dit: qu'en serait-il du monde s'il n'y avait les religieux ? Donc, quand même, c'est mieux qu'il y en ait, même des mauvais, plutôt que de ne pas y en avoir. Et c'est à ce moment-là que le pape demande à quoi sert la vie consacrée dans l'Église. Eh bien, la vie consacrée, dit-il, ne sert à rien. Rien d'autre que le parfum de Béthanie, parce que ça n'a jamais servi à rien, le parfum de Béthanie. C'est beaucoup d'argent dépensé pour ondoyer, si je puis dire, les pieds de Jésus. Une femme a donné tout ce qu'elle avait pour, au fond, précéder Jésus dans le don total que lui va faire de lui-même. C'est la gratuité totale. Elle donne tout, et ça ne sert à rien, et le seul qui s'en offusque, d'ailleurs, c'est Judas, parce qu'il dit, oh là là, avec ça, on aurait pu faire tant de bien. Mais la vie religieuse dans l'Église, c'est ça. On pourrait faire tant de bien ailleurs, on pourrait faire tellement mieux, on pourrait faire tellement autrement. Tant de forces sont perdues, tant d'intelligence, tant de beauté aussi. C'est ça qui montre que le don de Dieu dépasse totalement le don de l'homme. Et c'est le bon parfum qui se répand dans la maison de l'Église.
Ce parfum a été répandu par une femme, et je sais que vous avez aussi beaucoup parlé sur la place de la femme de l'Église, où vous rappelez très justement que cette question est d'abord une question de l'homme.
Oui, parce que moi ce qui m'inquiète, c'est pas du tout la promotion de la femme, elle est promue partout. Mais la promotion de l'homme, où sont les hommes? Où sont les pères? Où sont les chrétiens masculins, 35 ans, en âge de procréation, etc.? Où sont-ils? Quel est leur avenir? Quelle grande cause est pour eux? À part le tiers-monde, quels sont encore les grandes valeurs qui peuvent mobiliser un homme quand il a déjà tout à 30 ans, 35 ans et qu'il a devant lui 50 ans de vie avec la même femme dans le même cadre? Qu'est-ce que ça devient ennuyeux? Et alors que les femmes décident de tout partout. Et partout où les femmes arrivent, les hommes s'en vont. L'enseignement, c'est comme ça. Les professions médicales, c'est comme ça. Elles se féminisent complètement. Donc tout ce que la femme fait, comme l'homme, eh bien l'homme ne le fait plus. Il est finalement complètement rejeté dans les frontières de l'enfance, parce que finalement l'homme c'est celui qui joue à l'ordinateur, à être viril jusqu'à la fin. Et il n'y a plus cette puissance de collaboration entre l'homme et la femme qui fait que, en définitive, quand l'homme ne peut plus être lui-même, qu'il ne peut plus être père non plus, eh bien la femme non plus n'est plus elle-même. La femme est une caricature d'homme aujourd'hui. Qui suis-je pour toi? Qui suis-je avec toi? Comment serais-je qui je suis sans toi? Ça, c'est vrai pour toutes les femmes du monde, quelles que soient leurs conditions de vie. Il n'est pas bon que la femme reste seule. Or, aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où la femme peut totalement se passer de l'homme économiquement, affectivement, soi-disant. Parce qu'on voit, en termes de divorce, en termes d'abandon d'enfants, en termes de catastrophe adolescente.
Quelle perspective vous ouvrez?
Quant à la vie consacrée, je trouve que, bien qu'elle paraisse en décadence, danse, elle est maintenant totalement obligée de se recentrer sur l'essentiel, devenir toujours plus humble, plus petite, moins puissante et ainsi plus proche des humbles, des petits et des moins puissants. Et c'est là qu'on l'attend, c'est là que Jésus se trouve, c'est en bas de l'échelle. La vie consacrée en Occident, par exemple, n'a pas encore fini sa descente.
Et les perspectives de la femme dans l'Église?
La femme dans l'Église devrait tout de même prendre un peu conscience de sa chance. Et si elle ne le fait pas d'elle-même, qu'elle regarde du côté de l'islam pour voir comment ça se passe. Donc je dis que c'est dans l'Église catholique que se trouve la vraie liberté pour la femme. Moi, je suis d'une famille où ma grand-mère, à 9 ans, gardait les vaches. À 14 ans, ma mère transportait des colis. À 18 ans, conduisait un camion. Et n'empêche que c'était une couturière de mode en même temps. Et moi, à 35 ans, je sortais de l'université. Étant d'une congrégation minuscule, les Sœurs du Saint-Cœur de Marie, de la Hulpe, j'ai fait partie de deux synodes généraux à Rome. Un sur la vie consacrée, bien sûr, en 1994, comme expert. Et puis, en 1999, j'étais auditrice dans le synode pour l'Europe. J'ai pu prendre la parole devant cette aula magnifique où il y avait 200 évêques ou 250 évêques et moi, petite sœur de rien du tout, venant de nulle part, de la campagne, je parlais devant le pape et les évêques du monde entier pour dire que la vie religieuse doit être plus pauvre, plus chaste, plus obéissante, plus communautaire et c'est ainsi qu'elle deviendra vraiment ce que le Seigneur attend d'elle. Alors, si vous me demandez si les femmes doivent être prêtres, je dis elles le sont de naissance. Alors, elles n'ont pas besoin d'ordination, les femmes, elles le sont par nature. Tout le monde sait ça dans toutes les religions, que les femmes sont proches du sacré par nature. Les hommes ont besoin d'une ordination, mais pas les femmes.
Et c'est pour ça que vous écrivez que la femme chrétienne est de plus en plus responsable du salut du monde.
Oui, il faut que la femme retrouve vraiment sa place en alliance avec l'homme, en alliance avec Dieu qui est son père. Il faut que la femme sache qui est son père, qui est son mari, qui est son fils, et c'est comme ça qu'elle saura qui elle est. Elle ne peut pas prendre la place d'un autre, être calife à la place du calife, ça ne marche pas pour la femme. Et comme ça, elle s'exproprie d'elle-même.
Vous employez un très beau mot dans votre livre, l'effacement, la présence de l'effacement.
Oui, pour qu'une femme parle, il faut qu'un homme se taise. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un écoute. On ne peut pas parler si quelqu'un n'écoute pas. Qui s'est-tu autour de moi pour que je puisse parler un jour? Quelle puissance d'amour il y a dans l'effacement? Et réciproquement, la femme doit faire en sorte que l'homme advienne à lui-même.
Est-ce qu'il y a un parallèle à faire pour terminer entre la place de la femme et la vie consacrée?
Oui, je crois que la vie consacrée est par mission historique toujours aux avant-postes de la condition féminine. Les religieuses, par exemple, âgées, ont à cet égard une mission vraiment prophétique à exercer.
Laquelle ?
Par exemple, de tenir le bon chemin entre les soins extraordinaires et l'euthanasie. Pas se faire soigner à tout prix pour durer le plus longtemps possible, comme si on ne croyait pas en la résurrection, mais d'autre part, ne pas obliger les jeunes générations si peu nombreuses à être tellement excédées par le poids des anciens ou des anciennes qu'il ne restera plus alors que la tentation de l'euthanasie, comme c'est déjà le cas dans la société civile. Il faut qu'on montre par sa sobriété dans l'utilisation des soins de santé, par exemple, qu'on croit en la vie éternelle et qu'on croit que la santé du corps n'est pas exactement la santé de l'âme. L'âme ne vieillit pas, elle reste jeune et elle entre jeune dans l'éternité.